Bien, bonjour à tous. Alors, on est ravis de nous entretenir avec Eric et Nino au sujet donc de son adaptation de La Horde du Contrevent en bande dessinée, donc chez Delcourt. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, bon, avant d'en venir un petit peu plus précisément à la BD en elle-même, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours aussi et comment tu en es arrivé à la BD?
Oh là là, bah ça va être long.
On va essayer en essayant les grandes lignes.
Oui, alors les grandes lignes, la BD, moi ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en fais. Je suis autodidacte, j'étais dessinateur de bande dessinée jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des scénaristes. Et j'ai fait Alistair Kane, qui était une série qui devait faire 3 tomes mais qui n'en a fait que 2 chez Albin Michel. Ensuite j'ai fait Carthago, qui est aux humanoïdes associés, avec Christophe Beck, qui est une série dont j'ai fait les 2 premiers tomes mais qui continue. Voilà, j'ai également fait un 13 Mystery avec Yann au scénario. Et Fils du Soleil, avant La Horde du Contrevent, avec Fabien Nury au scénario, qui était une adaptation de Jack London. Voilà, et là je reviens donc avec une adaptation, mais cette fois c'est moi qui la scénarise avec La Horde du Contrevent.
Donc c'est pas ta première adaptation en tant que telle en fait.
Tu as déjà. Mais c'est ma première adaptation en tant que scénariste.
En tant que scénariste.
Voilà. Donc, mais sinon, oui, c'est la deuxième adaptation. Même si c'est des univers complètement différents, puisque le Jack London se passait dans les îles des mers du Sud avec des chasseurs de perles, c'est une histoire assez romantique. Et que La Horde du Contrevent, voilà, on est plus dans la SF, vraiment l'imaginaire. Et voilà, et ça par contre, faire de la SF, ça fait longtemps que j'avais vraiment très très envie de faire de la SF.
Et donc comment est né ce projet? Comment l'idée a germé? Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse?
Alors la genèse de ce projet a été très longue, semée d'embûches, de retours en arrière, d'avancées, donc c'est un peu long de résumer, parce qu'il y avait aussi un projet de film, d'animation et de jeux vidéo avec Forge Animation qui avait acheté les droits et sur lequel d'ailleurs Alain Damasio travaillait en collaboration avec eux. Et moi, quand je suis allé voir Alain Damasio en lui disant que j'avais envie d'adapter son roman en bande dessinée, il m'a dit mais il y a en fait un projet de film qui est en cours. Voilà, donc j'ai rencontré les gens de Forge Animation et d'ailleurs on devait travailler ensemble, mais le projet ne s'est pas fait. Et donc ensuite j'ai monté un dossier, on va dire plus classique, que j'ai présenté aux maisons d'édition. Mais voilà, sinon c'est la façon dont les choses se sont faites, c'est que tout simplement le roman a été pour moi une lecture extrêmement importante qui m'a beaucoup marqué et l'idée a germé progressivement d'en faire une bande dessinée. Je n'ai pas eu forcément l'idée tout de suite en lisant le roman, je me disais pas ça, je vais faire une bande dessinée avec, c'était pas du tout l'objectif. Mais voilà, c'est petit à petit que l'idée est venue.
Et on sait d'après l'œuvre d'Alain Damasio, et oui. Est-ce qu'il a eu un peu un regard sur ton travail? Est-ce qu'il a un petit peu participé ou donner un peu son avis sur certains axes ou certaines pistes que tu explorais?
Alors m'a fait des retours sur les différentes versions du scénario que j'écrivais, que je retravaillais. Il a vraiment fallu trouver la bonne la bonne distance entre nous, en fait, c'est pas évident. Lui, il sait que quand il me dit quelque chose, évidemment, pour moi, c'est important, puisque je respecte infiniment son travail, son œuvre. Et donc, forcément, ce qu'il me dit a un poids énorme. Donc, il sait que quand il me dit quelque chose, ça va avoir un fort impact. Et en même temps, il a vraiment envie que je me sente libre et que je me réapproprie son livre. Moi, de mon côté, j'ai très envie de l'écouter et en même temps, j'ai très envie de faire mon propre livre. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre-là qui n'est pas simple. Toujours est-il que moi, quand j'écris de mon côté et qu'une fois que j'ai fini une version dont je suis content, je lui propose, je lui fais lire et qu'ensuite, j'écoute ou pas ses avis sur la question. Mais en tout cas, je l'écoute de toute manière. Enfin voilà, après, je fais mes choix, mais oui, je le tiens au courant de ce que je fais, en tout cas en termes de scénario beaucoup plus d'ailleurs, par rapport au design, je vais montrer aussi des choses, mais là je me sens plus, on va dire, dans mon domaine en fait, dans mon domaine de compétences. Peut-être un peu moins dans l'écriture vu que c'est mon premier scénario aussi, hein, donc voilà, lui, il a écrit plusieurs romans, il a écrit des scénarios, donc forcément, je suis attentif à ce qu'il me dit. Mais en même temps, il est pas mon seul lecteur. Hein. J'ai aussi d'autres lecteurs en fait qui me font des retours.
Il y a peut-être un aspect du travail qui ressemble un peu à ce qui se passe dans la Horde aussi, finalement, où c'est la somme de.
Eh ben oui, il y a un aspect comme ça.
Il y a un peu de ça.
C'est ça. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, je suis pas tout seul en fait. Bon, il y a que mon nom, mais c'est parce que ça, je suis un salaud. Mais sinon, oui, bien sûr que on a toujours besoin de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin des retours, de lecture, parce qu'à un moment donné, en fait, on est tellement dedans, on a tellement le nez dans le guidon, on pense avoir dit les choses clairement, par exemple. Puis les gens me disent, ah, mais ça, j'ai pas compris. Pourquoi lui il fait ça? Mais si, parce que machin. Ah bon, bah, j'ai pas compris. Et là, on se dit, bon, bah, s'il l'a pas compris, s'il l'a pas vu, c'est que je me suis mal exprimé, tout simplement, ou c'est que je me suis mal pris. Donc il faut être attentif à ça. Donc, après, je fais pas lire à tout le monde non plus, et de ce qu'on me dit, moi, je fais le tri de toute manière.
Il faut bien laisser quelques lecteurs aussi.
Mécontent.
Qui puissent découvrir la BD après aussi, en termes de vente notamment.
Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas autant de lecteurs que ça de mes scripts. En plus, c'est chiant à lire un script. Hein. Il y a pas d'image, c'est résumé. Des fois, moi, il y a des choses que je décris pas, des actions que je décris pas, parce que dans ma tête c'est très clair et que c'est du dessin, donc je prends pas la peine forcément de décrire, et du coup à lire c'est peut-être un peu fastidieux quoi, c'est pas forcément très très agréable, donc en général c'est des gens de bonne volonté. Oui.
Et donc comme c'est ton premier scénario, tout seul, et est-ce que ça
publié,
a changé,
en tout cas
publié, donc oui, parce que tu as déjà peut-être écrit des choses avant, ou
ouais, j'ai des envies, des idées, des projets que j'ai pas forcément abouti, mais où j'avais commencé à développer des choses, donc et puis même au tout début quand je faisais de la bande dessinée, j'avais pas de scénariste, donc je faisais mes propres histoires tout seul quoi. C'était vraiment au tout début, c'était sur des petites histoires, quand je faisais des concours à Angoulême, des choses comme ça. Bon, bah là, j'écrivais mes histoires de manière assez spontanée d'ailleurs.
Et donc, est-ce que le travail est quand même différent quand tu es à la fois scénariste et dessinateur, que, enfin, effectivement,
ouais, c'est
quand
très
tu prends le. Et au niveau de la façon de travailler, là tu es finalement un peu avec toi-même, en équipe malgré tout, avec des conseils que tu peux avoir de droite et de gauche. Mais. Est-ce que le travail est différent de quelle manière, la perception de ton travail a changé aussi avec ce travail ou...
Alors, la perception, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes d'organisation, oui, c'est très, très différent. Après, moi, je ne suis pas un scénariste, enfin, je suis dessinateur et là, à la fois scénariste, mais je sais qu'il y en a qui écrivent presque en dessinant. Moi, ça reste assez séparé, la phase d'écriture et la phase de dessin. Malgré tout, ce qui s'est passé pour cet album-là, c'est que je l'ai entièrement storyboardé du début à la fin, avant de faire des pages. J'en ai fait quelques-unes, mais à un moment donné, j'ai fait tout le storyboard d'une traite jusqu'au bout. Et ça, je l'avais jamais fait avant. Et c'est parce que je pense que j'avais besoin de savoir où j'allais, en fait, et de voir comment allait fonctionner en fait le récit une fois qu'il était mis en image, sans avoir à faire toutes les planches finalisées. En fait, ça permettait de lire la BD sans qu'elle soit entièrement ancrée, mais simplement avec des croquis et les bulles. Ça me permettait de voir le rythme, voir si des scènes étaient trop longues, trop courtes, et de voir le rythme global de l'album, ce que j'avais jamais fait avant. En fait, là, pour le coup, je faisais vraiment confiance à mes scénaristes et je partais sur les planches. Donc ça change beaucoup de choses quand même.
Oui, il y a un cheminement en plus qui est peut-être lié à la structure du roman à la base, et au fait que comme c'est lié au vent, au mouvement, il y a cette notion de rythme aussi finalement. Et,
oui.
Est-ce que c'était pas forcément un peu difficile à rendre en bande dessinée où on a des images figées, même s'il y a tout un tas de techniques pour rendre le mouvement.
Oui, oui, tout à fait.
Cela c'est lié au vent, donc il y a les différents types de vent.
Oui.
Donc Alain Damasio jouait notamment aussi sur la ponctuation à ce niveau-là.
Oui, oui, oui.
Il y avait c'est un roman, le processus est différent, les procédés sont différents.
Oui.
Mais en BD, comment tu as attaqué cet aspect-là du roman finalement, parce que le vent c'est un des personnages du roman aussi, des vents.
Ouais. Ça effectivement, ça a été une grosse partie du travail, c'était de trouver des outils pour faire ressentir ce vent qui est omniprésent, Et d'ailleurs, des fois, j'en discutais avec Alain, je me disais, mais des fois, le vent, je le perds. Il me disait, ben moi, en écrivant aussi, c'est pareil, des fois, je le perdais, quoi. Donc, il faut le retrouver sans cesse. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est une espèce de présence continue, permanente. Mm-hmm. Et parfois, ben, on est dans les conflits entre les personnages, ils sont en train de discuter, ils se posent des questions, machin, puis ils s'engueulent et tout, puis d'un coup, le vent est... Bah, en fait, il est toujours là, mais là, on n'est pas en train de parler de ça. Et c'est pas évident, en fait, de garder cette présence sans arrêt. Bon, après, voilà, en termes de dessin, le vent s'est passé à travers les traits de mouvement. Des fois, je dessine basiquement des tourbillons, je fais voler des choses, il y a de la poussière qui vole en permanence, des débris végétaux, etc. On voit que les arbres sont inclinés, que les personnages, quand ils avancent, ils sont penchés en avant, etc. Donc, Il y a les onomatopées aussi, parce que en fait c'est quand même très sonore. Lors du contrevent, le roman, ben Alain a vraiment beaucoup travaillé. Chaque personnage a une musique, et donc Alain a une perception du monde, je pense, assez auditive. Moi, je suis plus visuel. Donc ben voilà, quand tu parlais du rythme avec la ponctuation, le style d'écriture pour chaque personnage, etc. Lui, c'est les outils dont il dispose en littérature. Moi, mes outils sont les outils de la bande dessinée. Donc forcément, le simple fait de passer du roman à la bande dessinée, on n'a pas les mêmes outils pour décrire un univers qui est censé être le même. Forcément, ça change énormément de choses. Moi, le rythme, il est dans le nombre de cases, la taille des cases. Est-ce qu'elles vont être allongées, verticales, le nombre de personnages, est-ce qu'il y a plutôt du vide, est-ce qu'elles sont plutôt remplies, saturées ou pas, voilà. Après, il y a la couleur aussi qui vient en jeu. D'ailleurs, à ce propos, voilà, je voulais remercier encore Gaëtan qui a fait un excellent travail sur l'album. Il m'a vraiment fait des couleurs magnifiques. Voilà, donc toute cette retranscription du vent, simplement, moi j'ai dû transposer avec mes outils à moi, les outils qui sont ceux de la bande dessinée. Voilà, tout comme Alain l'avait fait avec la littérature, oui. Moi je l'ai fait avec les images et les bulles et les onomatopées, voilà.
Et donc au niveau de, là, moins visuel, mais de la narration en elle-même, donc là, tu as choisi de faire le récit par le point de vue finalement de Sov, le scribe.
Oui.
Donc, les lecteurs du roman vont sans
ils vont jeter des pierres.
Est-ce que c'est un choix qui t'est apparu évident dès le début, ouais, ou c'est quelque chose vraiment d'évident dès le départ?
Oui, mais c'était pas forcément conscientisé, mais très rapidement, pour moi, j'allais raconter l'histoire de Sov. Et en discutant avec Alain, il me disait, mais pour moi, la Horde, c'est l'histoire d'un groupe, c'est pas l'histoire d'un personnage dans un groupe. Je dis, bah ouais, mais moi j'ai envie de raconter l'histoire de Sov. Je dis, bah oui, forcément, tu vas faire des choix. Et je dis, bah oui, moi, je sais pas, je m'en sens proche. Et les problématiques qu'il affronte me touchent infiniment, très profondément, intimement. Et voilà, moi j'ai envie de re-scénariser la Horde du Contrevent à travers Sov, le scribe, et de raconter son histoire. Alors bien sûr que les autres sont toujours présents et que c'est toujours l'histoire de la Horde, mais j'ai redramatisé l'histoire à travers la problématique de Sov. Voilà, qui est la solitude et le lien, pour faire rapide, mais qui sont des thèmes extrêmement présents dans le roman, mais qui côtoient bien d'autres thèmes. Là, j'ai choisi de développer, de me focaliser principalement sur celui-là, mais oui, évidemment que ça, du coup, ça change énormément les choses. C'est-à-dire que on est passé d'une polyphonie à un récit avec un protagoniste principal
voilà. Sachant que la BD permet de toute façon d'avoir un...
Ah ben, on a un point de vue extérieur de toute façon. Voilà. Moi, j'ai pas l'intériorité des personnages. J'y ai pas accès, en fait. À moins de faire des bulles de pensée à tout le monde, ce qui risque très rapidement d'être assez chiant.
Et d'alourdir un peu.
Et d'alourdir les choses. Moi, j'avais pas du tout envie de ça. En tout cas, voilà, c'est, encore une fois, c'est des choix. Moi, j'avais pas envie de mettre des bulles de pensée, etc. J'ai déjà la voix off. Déjà, j'ai hésité, mais bon, Sov, l'avantage, c'est qu'il a son carnet de contre. Donc, ça me permet des choses qui sont extrêmement précieuses pour moi, c'est-à-dire que par moment, je me sers vraiment de la densité du texte pour dire beaucoup de choses, et ça me permet de synthétiser en très peu de cases des choses qui m'auraient fallu des pages et des pages si j'avais voulu le décrire avec simplement des images. Donc voilà, je jongle aussi entre le moment où je donne la prépondérance au texte et le moment où c'est l'image qui prend le relais.
Ouais, on est vraiment dans la transposition aussi. Enfin, c'est-à-dire il y a le matériau du roman à l'origine, et finalement tu en viens à faire une œuvre propre, en fait, qui est
oui,
la tienne aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Enfin, je m'en rendais pas forcément compte au tout début quand j'ai entamé le projet, mais c'est au fur et à mesure que j'avançais dans cette adaptation, dans l'écriture, que j'ai pris conscience de ce que c'était que vraiment le travail d'adaptation. Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouvais ça fascinant à faire.
Justement, en prenant le personnage de Sov, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que selon les lecteurs, de toute façon, Alain Damasio, qui a écrit tout le livre, qui a côtoyé finalement un peu tous les personnages, bon, c'est lui qui les a créés aussi.
Il les porte, ouais.
Il les porte, donc pour lui, c'est un groupe, effectivement, mais peut-être que pour les lecteurs, enfin, chaque lecteur va s'identifier plus ou moins
c'est
avec.
Ah, c'est sûr.
L'un ou l'autre.
Bon, les lecteurs, ils ont plus ou moins un personnage préféré, quoi. Ah, moi, j'adore Caracol, ah, Golgoth, il est super, le prince, fantastique. Enfin, oui. Alors, en fait, c'est presque l'ordre, c'est quasiment un personnage qui serait complexe, qui serait traversé de contradictions, etc. Sauf que chaque personnage représente presque symbolise presque un trait de caractère qui serait poussé à l'extrême. Enfin voilà, Pietro, la noblesse, Golgoth, le courage, l'intransigeance, Caracol, le mouvement, l'imprévisibilité, la créativité pure, Ergue, le combat. Enfin voilà, et chaque personnage a vraiment une identité très très forte. Et on est rarement aussi monolithique. En général, les gens sont rarement aussi monolithiques dans la vie, mais c'est ce qui rend ces personnages fascinants, c'est qu'ils sont. Les curseurs sont poussés loin et du coup ça les rend passionnants.
Ouais. Ce sont des personnages pour le.
Ce sont des personnages.
Et en termes d'adaptation, donc justement ça reste quand même assez proche du roman, hein, la structure, la façon dont c'est avancé. Est-ce que.
C'est marrant que tu dises ça. Moi, je trouve ça assez différent. Mais...
Bah, c'est différent, mais on retrouve le. Dans les. Enfin, dans les.
Ah bah ça par contre oui, l'esprit du livre.
L'esprit du livre est là en fait. Bah
ça moi j'ai évidemment pour moi c'était
il est
important.
Là donc il y a une trame de toute façon qu'on peut pas
Ah bah non,
c'est plus la route du contrevent.
Non, c'est pas une enquête policière, c'est sûr.
Voilà. Donc il y a malgré tout une trame. Donc moi je me souviens dans le roman, il y avait pas mal de points ou de passages finalement qui étaient un peu laissés en suspens. Est-ce que tu as peut-être envie de développer certains moments qui étaient un peu laissés en arrière-plan dans le roman, par exemple.
Tu penses à quel moment, par exemple, quel type de scène
J'en ai pas en tête, là, j'ai pas relu le roman depuis un petit moment, mais en lisant la BD, la façon dont c'était agencé, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des possibilités en termes de mise en scène ou de.
Oui.
J'imagine que tu as dû y penser, hein, parce que je pense que.
Bah, en fait, moi, effectivement, ce qui se passe quand je scénarise, c'est que. Il y a des aspects que je vais laisser tomber. Par exemple, là, je suis sur le tome 2, là, sur les fréoles, en gros. Pas trop en dévoiler, mais dans le roman, la scène où ils rencontrent les fréoles est très longue. Ils font deux ou trois fois la fête, je crois. Il y a plusieurs fêtes qui se suivent les unes derrière les autres. Bon, si je fais ça en BD, ça va être fastidieux, quoi. Il y a Caracol qui fait une présentation de l'ordre qui est hyper importante à ce moment-là parce que c'est vraiment le moment où on comprend exactement qui fait quoi de façon claire et sauf que c'est déjà loin dans le roman, on est déjà à 150 ou 200 pages. Moi évidemment que ma présentation de l'ordre, j'ai dû la faire un peu plus en amont pour qu'on comprenne qui fait quoi assez rapidement. Donc par exemple cette scène de présentation de Caracol qui est très belle, hein, dans le roman, bon, moi je vais la faire sauter par exemple, mais il y a d'autres aspects. Par exemple, dans ce tome 2, j'ai vraiment envie de développer le rapport des femmes aux enfants et des Hordiers, tout simplement, avec leurs parents, et parce qu'ils vont avoir des nouvelles de leurs parents, et leurs propres enfants. Dans la Horde, il n'y a pas d'enfants, mais en fait, ils ont eu des enfants, les femmes ont eu des enfants. Et Caliroé en parle à un moment donné, elle parle de son fils. Et j'ai vraiment envie de m'attarder sur ce sujet-là, qui pour moi est très très... Enfin voilà... est super important et j'avais envie de le développer. Donc je pense qu'il va prendre plus d'importance que dans le roman.
Que dans le roman.
Oui. Je pense que je vais vraiment me focaliser là-dessus et du coup bah voilà, peut-être laisser de côté d'autres aspects, mais cet aspect-là qui moi me touche aussi personnellement, à titre personnel, j'ai vraiment envie d'en parler.
Oui, donc c'est aussi une histoire de choix et de
complètement.
D'orientation.
Mais en fait le roman est d'une telle richesse qu'il y a vraiment moyen de Il y a des graines, en fait. Il voilà. y a plein de graines dans ce roman. On peut en prendre quelques-unes, puis se faire un petit jardin. Enfin, c'est formidable.
Et justement,
ça.
Dans ce foisonnement, est-ce que c'était pas difficile de choisir aussi, puisque finalement,
il y a des moments où on dit, il faut que je mette cette scène-là, il faut que je mette cette scène-là, et tout. Puis à la fin, on se retrouve avec un album qui est trop gros.
Qui est déjà assez important. Mais
donc, il y a évidemment la tentation de tout mettre, mais je pense que ça serait inutile, un peu bébête, et je pense que c'est pas ça qu'il faut faire, à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mm-hmm. Voilà.
Non, c'est vraiment une adaptation. Il y a un matériau d'origine, et après, il faut donner quelque chose.
Oui, oui. C'est une ligne. Il passe à travers moi, en fait, à travers mon vécu, ma sensibilité, et forcément, il y a des choses qui me touchent plus que d'autres. Et Alain me disait, La Horde, c'est un roman sur le courage. Et moi, je disais, non, c'est un roman sur le lien. Et lui, il me disait, non, c'est le courage. C'est un essai sur le courage. Et d'ailleurs, au début, je voulais mettre en sous-titre un essai sur le courage. Et, ça. Et pour moi, c'était pas ça qui dominait. Pour moi, c'était vraiment la question du lien. Il dit oui aussi, mais voilà.
Bon. C'est une question de perception. Moi-même, en tant que lecteur, c'est plutôt effectivement le lien qui me.
Ouais,
après, en fonction de nos expériences respectives,
c'est ça.
Les différentes, on a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Ouais.
Mais Golgoth, j'apprends à le découvrir en faisant la BD.
Peut-être aussi.
Ouais, c'est assez dingue. Moi, c'est un personnage qui me rebutait beaucoup. Au début, à la lecture, j'avais vraiment du mal. Je me disais, mais c'est qui ce connard, quoi ? Il est vraiment pas sympa, quoi. Après, il a pas besoin d'être sympa, hein. Comme il le dit à un moment donné, il a pas besoin qu'il me tape sur l'épaule. Qu'il soit vivant me suffit. Mais ces phrases-là, j'ai mis du temps avant de me dire, mais en fait, oui. Et donc, j'apprends à l'aimer au fur et à mesure, mais il n'est pas évident à aimer Golgoth. Hein.
Je pense qu'il n'a pas forcément une.
En tout cas, pour moi, c'est pas facile. Voilà.
Il n'a pas des caractéristiques qui incitent à le. Forcément, c'est à l'apprécier, entre guillemets.
Oui, tout à fait.
Il a des qualités qui ne sont pas forcément celles qu'on. Qui vont être les plus attirantes, entre guillemets.
Mais je crois que j'ai envie, dans les tomes suivants, de peut-être développer ce qui pour moi, justifie cette violence et cette brutalité qu'il a, et qui est choquante souvent. Bon, après, on n'est plus tellement dans une société où cette violence-là a tendance à s'exprimer. Les rapports humains sont très polissés, etc., très polis. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je trouve ça très bien. Mais j'ai vraiment envie de parler, en fait, de la nécessité pour lui d'être ce qu'il est, en fait. Ça me semble vraiment super important, en fait, pour pas que ce personnage. Il y a quelqu'un hier en dédicace qui m'a dit Golgoth, lui, c'est le méchant, il est méchant. Je dis, mais non, il est pas méchant, c'est plus compliqué que ça, quoi. Ah, si, il est méchant, c'est un méchant. Je dis, mais non, c'est pas un méchant, c'est plus complexe que ça, et j'ai envie de parler de cette complexité-là, du personnage. Qui, en fait, ne peut pas se permettre d'avoir une faiblesse. Ce n'est pas possible, il ne peut pas. Parce qu'il est lui-même tellement monobloc que la moindre entame, la moindre faille fendrait tout. Et il est trop rigide, et en même temps, s'il n'était pas aussi rigide, il ne pourrait pas aller aussi loin. Donc, c'est une nécessité.
Et c'est un personnage qui est intéressant pour ça aussi.
Ben oui, très intéressant.
Donc, la bande dessinée permet finalement de redécouvrir la Horde du Contrevent.
Ça serait formidable, ça. Ça, c'est chouette. Ça me fait plaisir.
Donc, de retrouver aussi la Horde pour les lecteurs qui ont déjà lu le roman. Pour les nouveaux, de découvrir un univers.
Moi, j'ai pas voulu spécifiquement faire une BD pour les gens qui avaient lu le roman. Et d'ailleurs, en général, c'est les gens qui n'avaient pas lu le roman qui me faisaient les remarques les plus pertinentes sur le développement du scénario et de l'avancée du projet. Quoi. Mmh.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Donc, en deux mots, tes projets. Donc, s'il y en a d'autres, faire les suites.
Oui, faire la déjà. Suite. Oui. Je suis déjà dessus. Ouais. Donc, je continue d'avancer avec eux. Voilà.
Super. Donc, au plaisir de lire la suite quand elle arrivera. Et puis... Donc, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Et merci encore pour
ces
éclairages. Merci.